Tutti et à tous, je vais vous souhaiter la même chose que Paul a souhaité dans l'épître aux Romains. Il dit à vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Argenteuil, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là pour glorifier le Seigneur et nous allons le faire à travers sa parole, que nous puissions être attentifs à la parole. Car les choses que nous disons ne viennent pas de nous, mais elles viennent de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Faisons attention à ne pas nous laisser éloigné de la vérité, car automatiquement on s'éloigne de la vérité et on rentre dans l'erreur. Ce matin, j'aimerais vous parler du courage. Est-ce que vous en avez du courage? Est-ce que nous en avons, pardon, du courage? J'ai regardé la définition du courage. Voilà ce qu'il dit. Le courage, c'est la fermeté d'âme. Fermeté d'âme. Permettant d'affronter les dangers, la souffrance. C'est un état d'âme qui nous permet d'affronter les dangers et la souffrance. Synonyme du courage, c'est ardeur, le zèle. Un peu le même de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Lorsqu'il a dit « le zèle de la maison me dévore ». Il est rentré dans les temples, il a chassé tout le monde. Il fallait le faire, n'est-ce pas? Le courage. Et vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est plein de défis. Plein de défis. Rien ne semble facile. Chaque situation, il faut l'affronter avec ce courage. Pourquoi? Parce que c'est rempli de difficultés. Il y a des moments où nous nous sentons limités. Nous n'osons pas avancer, où nous n'osons pas prendre de décisions. Le courage, c'est ça aussi, c'est prendre des décisions. Voilà pourquoi il est nécessaire. Des fois, nous avons peur de faire le deuxième pas. Peut-être on dit, oui, je vais aller, je vais faire ça. Mais on a peur de faire ce pas-là, que peut-être on a réfléchi. Ça veut dire qu'il nous manque le courage d'aller au bout. Et vous savez, on en prend tous les jours des décisions. Et tous les jours, il faut du courage. Il y a quelqu'un qui a écrit et qui l'a dit, « L'aujourd'hui est l'ensemble des décisions que j'ai prises hier. » L'aujourd'hui, c'est l'ensemble des décisions que j'ai prises hier. Je vais vous inviter à lire un livre dans lequel, un passage qui se trouve dans le 2 Samuel 23, chapitre 23. On va lire les versets 8 jusqu'à 12. Alors, 2 Samuel 23, verset 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jochbeth, Bathshebeth, les Tachémonites, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Anorchi. Il était l'un des trois guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il s'éleva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint et après Éléazar, seulement pour le prendre les dépouilles. Après lui, il y a eu Shama, fils d'Agoué, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, les protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Que l'Éternel bénisse sa parole. On voit ici dans ce texte David, qu'il avait formé une grande armée parce qu'il devait délivrer ou il devait protéger le pays que le Seigneur il leur avait donné. Hein? Et il gagna en loyauté tous ceux qui étaient dans son armée. Les gens, ils avaient confiance en David. Si vous lisez la suite du chapitre, hein, David, il a dit en certain moment, « j'ai soif de l'eau qui se trouve dans ma terre ». Et alors tout de suite, il y a eu des soldats qui ont été lui ramener de l'eau. Il pouvait mourir même, tellement qu'ils étaient imprégnés de David, tellement qu'ils l'aimaient, qu'ils étaient des loyaux. D'ailleurs, la suite, David, il dit, non, buvez-vous, vous avez risqué votre vie pour m'amener de l'eau, buvez avant. Donc on voit déjà qu'ils étaient loyaux avec David, qu'ils risquaient leur vie même. Hein? Et tous ces hommes, ils ont aidé David à prendre possession et à devenir le roi dont tout le monde il connaît. Hein? Le roi selon le cœur de Dieu. Malgré tous ces manquements, on l'a déjà vu la semaine dernière. Hein? Hein? Là, on a vu la semaine dernière, on ne croyait pas que David, il ait fait tous ses péchés. Et un péché l'un derrière les autres. Et pourtant, le Seigneur, l'Éternel lui dit, David, c'est un homme selon mon cœur. Voilà pourquoi, et ici dans ce texte, il y a quoi? Il nous présente trois hommes. Il les appelle des vaillants. Des vaillants. C'est-à-dire qui des hommes qui ont le courage. Des courages. Et je vous invite à regarder ces trois hommes qui nous parlent justement du courage que nous devons avoir en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir le courage d'avancer. Nous devons avoir le courage d'être encore plus et davantage loyaux envers Jésus-Christ qui nous a sauvés, lui qui a donné sa vie pour chacun de nous. Le premier, il s'appelle, on l'a vu, c'est difficile à prononcer, mais je le prononce comme je peux. Hein. S'il y a quelqu'un qui connaît les mots hébreux, il le prononcera comme il veut. Hein. Jochebed Batshebet. Il a fait quoi ce monsieur? Voilà ce qu'il a fait au verset 8. Il a confronté 800 hommes et les a tués. Bien sûr, 800 hommes, tout seul. Hein? Vous me direz... Bien sûr, la Bible ici utilise un langage figuré. C'est à chacun de nous de comprendre ça. Hein? C'est-à-dire qu'il n'a pas littéralement tué ces 800 hommes avec sa lance. Mais ça signifie qu'il a été confronté à une bataille invincible. C'est-à-dire qu'il avait devant lui des ennemis beaucoup plus puissant que lui, mais que cet homme-là, il avait devant lui l'honneur pour son roi. Et alors, il a été confronté à cette bataille et il y a mis tout son courage. Voilà pourquoi ils sont appelés des vaillants hommes. Des vaillants hommes. Jochebed, hein? c'est difficile le nom, hein, a eu le courage de ne pas regarder l'obstacle. Ça aurait été moi, j'aurais vu 800 hommes devant moi, je me serais barré. Et vous aussi, je suppose. Mais lui n'a pas regardé ce qui était devant lui. Il a regardé le but qu'il avait à faire. Il avait à être loyal envers David et envers son peuple et à gagner. Donc, il a foncé. Il a eu ce courage-là, cet homme. Hein? Bien sûr, il a eu le courage. Pourquoi? Parce que devant lui, il y avait un défi insurmontable. Il avait un défi insurmontable. Hein? Et ici, on voit que cela, il était au-delà de ses possibilités. Et c'est exactement ce que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons voir tout autour de nous. Nous devons être impliqués et voir que devant nous, il y a des obstacles qui sont difficiles à passer. Mais nous avons cette assurance que le Seigneur, il est avec nous. Ce n'est pas n'importe quel Seigneur. C'est celui qui a tout pouvoir dans les ciels et sur la terre. Et qui nous dit, ne crains pas, je vais combattre pour toi. N'aie pas peur de ceux qui tuent le corps. Ils ne peuvent pas tuer l'âme. Avec un tel Dieu, cet homme-là, il avait David, il voyait David comme l'Éternel, comme Dieu. Et alors il a dit, avec lui, je vais traverser tous ces champs-là, toutes ces difficultés. C'était des hommes courageux. Il avait les yeux fixés sur ce que David était. Donc l'obstacle, il était là, mais il savait qu'il serait passé. Ayez les yeux fixés sur Jésus. C'est ça que nous. Il était un homme courageux. Mais d'où il vient le courage? Ben voilà, ça c'est une question aussi. Hein. D'où il vient le courage? Pourquoi ces hommes-là, ils étaient si courageux? Parce qu'ils avaient David devant eux. D'où il doit venir notre courage à avancer, de ne pas nous arrêter? De notre foi. En celui qui nous a sauvés. Jésus-Christ, c'est de là qu'il doit venir notre courage. Et pas de dire, oh, je suis gros, je suis grand, hein, je peux avancer, je vais faire. Non, c'est en regardant Jésus, à ce qu'il est, à ce qu'il a fait. Le courage, il vient de là. Il vient de la foi, d'une foi qui ne recule pas. Une foi, elle est toujours, il n'est pas statique, elle est active. Si j'ai la foi, je dois avancer, malgré qu'il y ait des obstacles. Malgré qu'il vienne des obstacles. Malgré qu'il vienne des obstacles. Et la foi, c'est la source du courage. Qu'est-ce que c'est qui nous fait avancer dans ce monde? Qu'est-ce que c'est qui ne me fait pas plonger dans le monde? Parce que je suis chrétien. Et il nous est dit dans Romains 10, 17, c'est un verset que tout le monde il connaît. Hein. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est qui doit nous pousser à aller vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Il y aura même des gens qui vont nous mettre les bâtons dans les roues. Ils vont encore nous dire des choses. Oui, mais c'est comme ça et comme ça, j'ai entendu ailleurs. Non, il faut se laisser conduire par la parole. Qu'est-ce qu'il dit la parole? Et pas ce qu'il me dit un homme. Parce que là, si on a la foi en Jésus-Christ, si on a la foi en Dieu, nous devons faire confiance à ce que Dieu dit dans la parole, pas à ce que certains hommes peuvent dire. C'est ça. La source de la foi se trouve dans les enseignements de Dieu. Et si on suit la parole de Dieu qui est la vérité, nous serons toujours dans la vérité. Moi, je crois en ça. J'attends que quelqu'un me dise, Aldo, tu te trompes. Mais Personne encore, il est venu me le dire. Mais si quelqu'un vient et il me dit, Aldo, tu te trompes, voilà la vérité, je change de chemin tout de suite. Pourquoi? Parce que moi, je crois que Dieu, il aime tous ceux qui se tournent vers lui vers la vérité. J'étais dans la religion catholique, je devais devenir prêtre. Un jour, j'ai eu la parole de Dieu entre mes mains, mais la vraie parole de Dieu, pas le missel que j'ai eu pendant 8 ou 10 ans. Mais lorsque j'ai eu la parole de Dieu dans mes mains, j'ai vu dans l'endroit où je me trouvais, avec tous ces mensonges édités par des hommes, je suis sorti. L'Épître aux Hébreux, il nous le dit, sortez du milieu d'eux. Il ne faut pas rester dans le monde. C'est ça ce qu'il a fait. Voilà pourquoi je me dis, quel genre de courage est-ce que nous avons? Moi, j'aimerais avoir le courage qu'il a eu Abraham. Il était dans un pays idolâtre. Il adorait même des idoles, comme tout le monde. Mais un jour, il y a eu un Dieu qui lui a parlé. Et c'est rare qu'un idole, il parle, n'est-ce pas? Mais un jour, voilà, c'est Dieu qui ne connaissait pas, peut-être qui servait, mais un jour, c'est Dieu, il lui a parlé. Et il lui a dit, va-t'en d'où est-ce que tu es. Quitte. Et il a quitté. Parce qu'il a cru, il avait la foi. Et cette foi, il lui a donné le courage de tout laisser. Il faut du courage pour tout laisser, n'est-ce pas? Pierre, Jacques, Jean, ils avaient une société de pêcheurs. Ils avaient des employés. Mais lorsque Jésus les appelait, ils ont tout quitté là. Matthieu, il recevait les impôts. Il était bien vu. Il a donné un peu aux Romains et l'autre le mettait dans sa poche. Voilà, donc il était à l'aise. Mais lorsque il a entendu l'appel de Jésus, il a quitté. C'est ça le courage. C'est ça le courage. Hein? Et vous savez, lorsqu'on a du courage, les fruits, ils suivent. Quels ont été les fruits de ce monsieur-là, Josheb. Il a arrivé à tuer 800 hommes. 800 hommes. C'est ça les fruits. Si on a le courage, persévérance de suivre ce que Dieu nous dit, les œuvres vont suivre. C'est lorsque nous laissons de côté le Seigneur qu'il n'y aura aucune œuvre. Au contraire, les choses vont se gâter. C'est toutes ces choses-là. Donc, ici, il nous a dit, il dit qu'il a fait face juste avec une lance. Comme je vous ai dit au commencement, juste avec une lance. Mais Dieu, il te dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Vous vous souvenez ce qu'il avait dit à Moïse? Ben, j'ai un bâton. Mais alors, va avec ce bâton. Et qu'est-ce qu'il a fait Moïse avec ce bâton? Sinon, David, lorsque le géant Goliath, il est arrivé, hein? Il a offensé l'Éternel. Il a dit, tu vas tomber, je vais te couper la tête. Qui c'est qui lui a donné toute cette foi? Mais tout ce courage, mais c'est Dieu. Alors, on peut se demander, qu'est-ce que c'est que nous avons entre les mains aujourd'hui? Nous avons entre nos mains la puissance de Dieu. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Cet homme-là, c'est ça, il ne regardait pas l'obstacle, mais il regardait le but. Tout devons être comme ça. Passons au deuxième, un certain Éléazar. Au verset 10, c'est le deuxième vaillant homme de David. Il s'éleva et frappa les Philistins jusqu'à que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. Ça aussi, hein? Sa main, elle est restée collée à son épée. C'est la figure de quelqu'un qui n'abandonne pas. Il est dans la lutte et il n'abandonne pas. Quelqu'un qui reste jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il est les courageux qui s'impliquent et ils n'abandonnent pas. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants du roi. Et nous ne devons pas abandonner. Nous avons ce courage qui s'implique et qui n'abandonne pas. Il était tellement impliqué dans cette bataille, il nous a dit, dans ce qu'il défendit, au point de faire partie de lui-même. Cette épée, c'était un instrument qu'il avait, mais cette épée, il faisait partie d'elle-même. Il nous a dit qu'il était collé à l'épée. C'est ce qu'il nous a dit. Hein. Il était impliqué et il n'a pas abandonné. Et Dieu aime ce type de personnages, des personnes, des gens qui se sentent impliqués, qui sont concernés avec lui dans les combats qu'on est en train de faire ici-bas, sur cette terre. C'est un peu comme les parents pour leurs propres enfants. Lorsque le propre enfant a une difficulté, ils sont là, ils n'abandonnent pas. Il n'abandonne pas. Éléazar, c'est un exemple d'implication. On doit s'impliquer. Nous devons être impliqués où? Dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes des travailleurs de Dieu. Nous sommes des travailleurs. Hein? Éléazar, c'est notre type. Il faut être impliqué dans l'œuvre. D'ailleurs, le Seigneur, Matthieu 8, 34, il nous le dit. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous savez, cet appel, ce n'est pas un appel collectif, hein, mais c'est individuel. Si quelqu'un... C'est toujours la volonté, le désir. Ce n'est pas collectivement, mais c'est si quelqu'un, il nous le dit bien, hein, Jésus appelle. Y a-t-il quelqu'un qui est intéressé à cet appel de Jésus? Oui, s'il y a quelqu'un, il faut qu'il renonce à lui-même. C'est ce qu'il dit Jésus. Il ne dit pas de se suicider, mais de laisser de côté tout ce qui concerne le monde et de ne voir qu'une seule chose, Jésus-Christ et son nom propre. C'est ce que le Seigneur il nous demande. Hein? Mourir pour le monde, hein? Vivre pour Christ. Voilà. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles, c'est ce qu'il nous est dit. Hein? Hein? Paul, il a déclaré, aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté, dans 2 Timothée 2, 4. Nous sommes des soldats. Nous avons été appelés dans l'armée céleste, dans l'armée de Dieu, pour combattre cet ennemi qui rôde tout autour de nous, ici-bas, ce prince du monde, qui est Satan. Nous sommes en guerre. Et donc, si nous sommes en guerre, nous ne devons pas nous embarrasser des choses de la vie. Vous savez, Goliath, lorsque Goliath, il était là, qu'il a défié le peuple d'Israël, David, il s'est présenté, il a dit, je vais aller, je vais le combattre. Hein? Saül, il l'a appelé et il lui a dit, viens, je vais te donner mon armure. Et il a dit, je n'ai pas besoin de ton armure.
J'ai une armure beaucoup plus puissante que la tienne. J'ai la foi en Dieu, à l'Éternel, et je sais qu'il va tomber. C'est ça exactement ce que nous devons faire. C'est exactement tout ce qui tente de nous distraire, c'est l'œuvre du malin. C'est l'œuvre du malin. C'est ainsi que Pierre, vous en souvenez, Pierre, il voulait empêcher Jésus-Christ d'aller à la croix. Jésus qui dit, vous savez, le Fils de l'homme, il sera pris, il sera tué. Et Pierre le dit, oh, que cela ne t'arrive pas, arrière de moi, Satan. Pierre, il appelait arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que, encore une fois, tout ce qui va nous empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu, il vient du Satan. Lorsqu'il y a des réunions de prière, des études bibliques ou d'autres, et vous dites, oh, je suis en train de faire quelque chose, je ne vais pas. Qui croyez-vous qui vous met dans la tête de ne pas venir, de ne pas participer? Mais c'est Satan. Parce qu'il essaie de nous empêcher d'aller là où la bénédiction de l'Éternel est déversée. On préfère faire les choses du monde que s'occuper des choses de Dieu. Voilà le courage qu'il avait, Éléazar. Comme Éléazar a été pour son épée, nous devons nous accrocher à l'appel que Jésus nous a lancé. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. On est des enfants de Dieu. Les choses de cette vie, ça ne nous concerne plus. Nous les avons, mais au moment opportun, nous devons le laisser. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses plus importantes à faire. Parce qu'il y a cette éternité qui est devant nous. Et lorsque nous serons de l'éternité, tout ce que nous avons ici, Salomon, il nous le disait, vanité de vanité, tout est vanité. J'ai voulu faire ça, j'ai voulu faire ça, et j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais tout est vanité. Il a dit, j'ai ramassé de l'argent, des possessions. Qui c'est qui va en jouir? C'est pas moi. Tout est vanité. Voilà pourquoi ce courage, nous devons l'avoir. Et c'est ça qu'on est appelé à faire. Regardez l'Église persécutée. Elle est persécutée dans la souffrance. Mais nos frères et sœurs, ils continuent. C'est à travers cette foi qu'ils prennent tout le courage. Et ils continuent. Et l'Église persécutée n'a jamais arrêté de progresser. Pourquoi? Parce que le courage vient de la foi. Parce que nous regardons le but de cette chose-là. Pas l'obstacle. Mais l'obstacle est infranchissable si on regarde nous-mêmes. Mais nous avons auprès de nous, nous avons Dieu. Qui d'autre peut vous venir à notre aide? Personne d'autre. Il y a le troisième personnage. Cet homme vaillant de David. C'est Shamma. Lui, il a eu le courage de rester. Il a eu le courage de rester. Il nous est dit au verset 11... Le peuple avait pris la fuite devant les Philistins. Shammah se posta au milieu du camp et le protégea. Le courage de rester. Il aurait pu s'enfuir comme tout le monde. Mais il a eu le courage d'y rester. Qu'est-ce qu'il a dit, Shammah? Shammah, il a dit, je resterai et je protégerai le champ. Quel est ce champ pour nous? Mais c'est l'Église. Hein? Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de peines, de souffrances qu'ils essaient d'arrêter cette œuvre que Dieu a commencée, pas seulement ici, mais partout. Les souhaits de Satan, du diable, c'est de détruire ce que Dieu a formé. Et beaucoup... Et ils disent, je m'en vais. Shamma a eu le courage de rester. Je reste, je protège ce que Dieu a fait. Le courage de rester pendant que tout le monde il s'en va. Et ça, bien sûr que lorsqu'il y a des difficultés, on essaie de les éviter. Hein. Le courage de payer les prix, parce qu'il est resté tout seul. Pourquoi il est resté tout seul? Parce que c'était un vaillant homme de David. Il voulait être loyal avec David, son roi. Et nous, c'est exactement pareil. Si on sait que dans l'endroit où nous sommes, la parole est prêchée, encore une fois, on revient à la Bible. S'il y a quelque chose qui n'est pas biblique, allez-vous-en dans l'église où vous êtes. Parce que c'est là où la parole est prêchée qu'il y a la bénédiction de Dieu. Mais que cela il soit démontré par la parole. Lui, il a dit, je reste. Il reste, il est resté et il a protégé. Et c'est ça. Les défis, vous savez, ils sont devant nous. Hein. Et l'option qui nous présente, c'est quoi? Échapper ou rester. Il n'y a que ça. S'échapper ou. S'échapper où? Je vous l'ai dit toujours, hein, ici à Argenteuil, ce n'est pas l'église parfaite. Hein. Vous voulez l'église parfaite, ça va être au paradis. Hein. Là, c'est l'église parfaite. Il n'y a pas d'église parfaite. Mais si je suis dans l'église que je crois, où la parole est prêchée, alors je reste et je combats tout ce qui peut s'opposer à cela. C'est ça qu'il nous apprend. Et en tant qu'Église, nous ne pouvons pas nous enfuir. Nous devons rester. Pourquoi? Parce que nous avons entre nos mains les livres de Dieu. Et même s'il y a d'autres livres qui, des gens, ils ont écrit, dans lesquels il nous semble qu'il y a contradiction ou je ne sais pas quoi, dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. J'entends des gens, oui, nous, on est jeunes, on a besoin d'une église jeune, d'enseignement nouveau. Il n'y a pas d'enseignement nouveau. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'enseignement nouveau. Il a dit dans Apocalypse que celui qui ajoute ou retranche quelque chose, qu'il soit maudit. La Bible, c'est pour toutes les époques. Il n'y a rien à changer et il n'y a rien à rajouter. Mais c'est Dieu qui l'a dit. S'il y a quelque chose qu'on dit, oui, peut-être c'est comme ça. Dieu, il nous l'aurait dit. Tout ce qui est là, c'est tout dont nous avons besoin pour grandir et pour être fidèles à Dieu et pour combattre et pour avoir ce courage dont nous avons besoin. Voilà pourquoi Paul il nous dit dans 2 Timothée 2:10, c'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis. Qui c'est qui a été choisi? Mais nous qui sommes dans l'Église. Je vous ai choisi, je vous ai appelé et nous formons l'Église. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Voilà ces vaillants hommes. L'Église, il doit être prête à tout endurer pour l'Évangile. Mais pour l'Évangile, pas pour ma propre gloire. Pour l'Évangile, pour Jésus-Christ. Ces vaillants hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Shammar, il a fait, il a défendu. Jochebed, il l'a fait. Éléazar, il l'a fait. Et nous, que faisons-nous? Est-ce que nous avons ce courage? Où est-ce qu'on puise ce courage? Dans la parole de Dieu. La foi, c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ qui nous sauve, par ce qu'il a fait. Donc, soyons des vaillants et des vaillantes hommes et femmes. Que tout obstacle qui se présente devant nous, il faut le balayer, car nous avons devant nous un chemin déjà tracé. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Nous savons ce qui nous attend. Nous allons mourir, nous savons ce qui nous attend. Soyons une communauté de disciples. Pas de chrétiens, mais des disciples. Les disciples, ils vont pour enseigner et pour apporter la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne bougent pas. Je suis sauvé, et bien voilà, ça va. Il y a distribution, réunion d'évangélisation. Ça ne me concerne pas, moi je suis sauvé. Le dernier message du Seigneur, c'est quoi? Allez dans le monde entier. Voilà pourquoi l'Église catholique, il a changé tout ça. Jésus, il a dit allez, et l'Église catholique, un jour, il a dit mettez des cloches. Lorsque les cloches ils sonnent, ils appellent les gens à venir à l'église. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut aller. Il faut aller. Nous devons être une communauté de disciples. Soyons une église pertinente à regarder les intérêts de celui qui nous a sauvés et pas notre propre intérêt. Des fois, il faut même renoncer à nos idées qui sont peut-être bonnes, mais qui n'apportent pas l'union dans notre Église. Et dans les Églises, pas dans notre Église. Excusez-moi les lapsus. Et pour cela, il faut faire qu'une seule chose, répondre à l'appel de Jésus-Christ. Et si nous avons cette foi, nous aurons ce courage de devenir ce qu'ils étaient, ces trois vaillants hommes, qu'ils ont tout fait, tout donné pour la gloire de David. Et nous, c'est pour donner toute gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.